Chapitre 1. L'impact de la crise de 1929, déséquilibres économiques et sociaux. Cours 3. Les politiques anti-crise. L'ampleur de la crise économique et l'échec des politiques libérales traditionnelles amènent les gouvernements à rechercher de nouvelles solutions. Celle-ci amorce une redéfinition de la démocratie occidentale qui se poursuit après 1945 et qui donne à l'État un plus grand rôle économique et social. A. Des politiques divergentes pour combattre la crise. Le libéralisme en question. Dans la continuité de la pensée libérale, la plupart des gouvernements pensent sortir de la crise par une politique de déflation. Inopérante, elle suscite le rejet des populations qui votent aux élections pour des candidats aux propositions explicitement opposées. Elle est abandonnée dès 1931 au Japon et en Angleterre, en 1933 aux États-Unis et en Allemagne. Seule la France mène jusqu'en 1936 cette politique déflationniste, d'où une reprise de la croissance plus tardive. La relance par l'État. Préconisée par l'économiste britannique J.M. Keynes, cette politique vise à soutenir la demande et à réduire le chômage par une intervention de l'État. L'accroissement des dépenses de l'État et la dévaluation monétaire constituent des impulsions jugées indispensables pour sortir de la dépression. Le New Deal, lancé en 1933 par Roosevelt aux États-Unis, est proche des idées keynésiennes, notamment par la politique de grands travaux impulsée par l'État fédéral. Ainsi, la Tennessee Valley Authority est chargée de réaliser des travaux gigantesques d'utilité publique dans cette région sinistrée. En 1936, en France, le Front populaire adopte aussi une politique d'augmentation du pouvoir d'achat. En Allemagne, Hitler veut relancer l'économie par le réarmement et un contrôle de plus en plus étroit de l'État sur les grandes entreprises. B. Les transformations du capitalisme. Une nouvelle politique économique. L'intervention régulatrice de l'État dans l'économie s'est donc imposée dans le contexte de la crise. L'État se dote de moyens d'action accrus en favorisant la concentration des entreprises et parfois en procédant à la nationalisation de certains secteurs clés. C'est le cas des chemins de fer en France avec la création en 1937 de la SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Les subventions à l'agriculture se généralisent. La naissance de l'État-providence. La crise conduit aussi les gouvernements à renforcer la législation sociale pour secourir les chômeurs et les plus démunis. Aux États-Unis, une série de lois initiées par l'administration Roosevelt pose les fondements de l'État-providence. Ainsi, par la loi sur le redressement de l'agriculture, Agricultural Adjustment Act, 1933, l'État indemnise les agriculteurs endettés qui s'engagent à réduire leur production. Le National Industrial Recovery Act, NIRA, voté en 1933, fixe un salaire minimum et établit un code de bonne conduite des entreprises. La National Recovery Administration, NRA, est chargée de faire appliquer cette loi et délivre un label « We do our part » aux entreprises volontaires. Enfin, le Social Security Act, 1935, institue une allocation chômage gérée par les États et financée par un impôt fédéral. En France, en 1936, le gouvernement de Léon Blum fait voter deux lois qui réduisent la semaine de travail de 48 à 40 heures et qui accordent 15 jours de congés payés par an. Les accords Matignon proposent une augmentation des salaires et mettent en place les conventions collectives dans les entreprises. Le Royaume-Uni inaugure en 1934 la première politique d'aménagement du territoire en faveur des régions déprimées. C. L'absence de coopération internationale. L'échec de la conférence de Londres. En juillet 1933, 66 pays se réunissent à Londres pour tenter de trouver une solution concertée à la crise. Cette conférence bute sur la force des égoïsmes nationaux, chaque État préférant la politique la plus favorable à ses propres intérêts. Roosevelt refuse ainsi toute coopération dans le domaine monétaire. Désormais, rien ne peut enrayer la montée du protectionnisme douanier destiné à se protéger de la concurrence extérieure. Même le Royaume-Uni abandonne le libre-échange dont il était pourtant le champion depuis 1846 en se repliant sur son empire colonial. Le commerce international décline d'autant plus. De l'autarcie à la guerre ? En Amérique latine, la crise met en échec les modèles de développement fondés sur les exportations. Ainsi, les dirigeants populistes arrivés au pouvoir dans un contexte de désarroi et de misère suscité par la dépression encouragent l'industrialisation pour réduire les importations en fabriquant sur place les produits nécessaires. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie recherchent l'autarcie en tentant de remplacer les importations par une production nationale ou par des accords de troc avec les pays d'Europe centrale. Les limites de cette politique conduisent ces dictatures à revendiquer un territoire plus vaste et à préparer une économie de guerre. Le Japon entre dans la même logique expansionniste en cherchant à sortir de la crise économique par la conquête d'un empire en Asie. Chapitre 2.